écoute des RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel.
Loïc Bussière.
Et c'est l'heure de votre journal en français facile, c'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
À la une, ce soir, Donald Trump qui applaudit les conclusions de l'enquête russe. Elle confirme l'absence d'entente entre son équipe de campagne et Moscou lors de la présidentielle de 2016. Mais elle n'écarte pas des soupçons d'entrave à la justice.
En Argentine, c'est un autre combat dans lequel s'est lancé le président Macri, celui de la hausse des prix, dans un pays miné par une inflation galopante.
Et puis nous irons au Nigeria dans ce journal, le Nigeria où la justice recherche deux anciens ministres impliqués dans l'une des plus anciennes affaires de corruption du pays.
Le journal.
En français facile.
Ça peut dire que le document était attendu aux États-Unis. Le rapport Mueller a été publié ce jeudi par le ministère de la Justice.
Et c'est le résultat de 22 mois d'une enquête tentaculaire, celle des liens supposés entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de la présidentielle de 2016. Un rapport dans lequel le procureur spécial dit n'avoir trouvé aucune preuve de collusion, donc de lien entre l'entourage du président et la Russie. En revanche, de sérieux doutes persistent sur le cas de Donald Trump, Eric de Salve.
Le rapport confirme de nombreuses informations déjà publiées mais qualifiées de fake news par Donald Trump. À commencer par cette rencontre en pleine campagne présidentielle en juin 2016 dans la Trump Tower à New York, entre des membres de son entourage et des Russes dans l'espoir d'obtenir des informations nuisibles à Hillary Clinton. Le rapport documente d'ailleurs tous ces faux contenus diffusés par les services d'enseignement russe sur Facebook pour aider à faire élire Trump. Robert Mueller énumère aussi 10 tentatives d'entrave à la justice impliquant directement Donald Trump. Le président a notamment ordonné de limoger Robert Mueller, mais son administration a refusé de le faire. Enfin, plus anecdotique, mais tout de même révélateur, cette réaction de Donald Trump en apprenant le lancement de l'enquête du procureur Mueller en 2017. « Oh mon Dieu, c'est terrible, c'est la fin de ma présidence. » Je suis foutu. Au lieu de cela, 22 mois plus tard, le président américain exulte à la publication de ce rapport, car malgré tous ces faits troublants qui ont conduit à 34 inculpations, dont 6 de ses plus proches collaborateurs, Donald Trump, lui, n'est pas inquiété par la justice, ce qui lui permet de dénoncer la plus grande arnaque politique de tous les temps. Éric de Salve, San Francisco, RFI.
À la une également l'Argentine où le président Mauricio Macri s'attaque à la hausse des prix.
Mais le gouvernement a annoncé hier le gel de plusieurs dizaines de produits de base. L'objectif, limiter les dégâts provoqués par une inflation galopante, plus de 50% en un an. Les précisions de David Bagé.
Le riz, le sucre, le lait, la viande. Au total, c'est une soixantaine de produits de base qui n'augmenteront pas dans les 6 prochains mois. Ce gel des prix est le fruit d'un accord obtenu par le gouvernement argentin avec les entreprises des secteurs concernés. De la même manière, le gouvernement s'engage à maintenir les prix des services publics, transport, électricité et gaz. Ces mesures sont prises pour une durée de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Elles ont pour objectif de soulager les Argentins essoré par une hausse des prix continue, plus 4,7% pour le seul mois de mars, 55% sur les 12 derniers mois. Un revirement dans la politique du président Macri, libéral, qui avait lancé un plan d'austérité en septembre dernier, très contesté dans les rues du pays, et cela en échange d'un prêt du Fonds monétaire international de 56 milliards de dollars. Ce prêt colossal marquait le grand retour de l'institution dans le pays. L'Argentine avait drastiquement réduit ses relations avec l'institution financière après la crise économique dévastatrice du début des années 2000.
David Bâché.
Il est 21h04 à Lagos, au Nigeria, où la haute cour de justice vient de lancer des mandats d'arrêt contre deux anciens ministres, Dan Etete et Mohamed Adoké.
Oui, un autre mandat d'arrêt international, celui-là vise l'ancien manager de la compagnie pétrolière italienne Eni. Tous trois sont impliqués dans l'une des plus anciennes et des plus importantes affaires de corruption du pays, le scandale Malabou. Julie Vendée.
L'affaire remonte à 2011. Après des années de contentieux, le gouvernement nigérian, sous la présidence de Goodluck Jonathan, vend une licence pour l'exploitation de l'OPL 245, un gigantesque bloc pétrolier d'une capacité de plus de 9 milliards de barils. La transaction est conclue avec les compagnies Shell et Eni pour 1,3 milliard de dollars. Une somme largement en deçà de la valeur réelle du site offshore, somme qui aurait surtout servi à payer des pots de vin. Selon l'ONG ONG britannique Global Witness et Finance Uncovered, près d'un milliard de dollars versés sur un compte bancaire à Londres allaient directement à Dan Etete. Ancien ministre du pétrole sous le régime du dictateur Sani Abacha, ce dernier s'était attribué le bloc en 1998 en le vendant à Malabou Oil & Gas, une société qu'il détenait secrètement. Avant que la licence ne soit révoquée par le gouvernement, puis cédée à Shell, puis de nouveau à Malabou Oil & Gas, donnant lieu à un important litige. En mars 2017, Dan Etete et 10 autres hommes d'affaires et politiques nigérians ont été mis en accusation, mais aucun ne s'est présenté devant la justice. Pour l'IFCC, l'agence anticorruption nigériane, ces mandats d'arrêt internationaux sont une première étape.
Et toujours dans le cadre de ce scandale, Malabou, notait que les compagnies pétrolières Shell et Eni comparaissent devant un tribunal de Milan en Italie pour des soupçons de corruption.
Dans l'actualité également, la situation en Libye et cette mise en garde de l'émissaire des Nations Unies contre un embrasement généralisé.
Et pour Hassan Salamé, l'offensive du maréchal Haftar a abouti à une impasse militaire, ce sont ces termes. Les combats pour le contrôle de la capitale libyenne ont fait plus de 200 morts depuis le début du mois, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Et par ailleurs, ce soir, le ministère de l'Intérieur du gouvernement d'Union Nationale libyen, reconnu par la communauté internationale, accuse pour la première fois directement la France de soutenir le maréchal Haftar. Accusation balayée par Paris qui réaffirme son soutien au gouvernement d'Union Nationale libyen.
En République démocratique du Congo, le deuil national est décrété demain vendredi après le naufrage d'une embarcation sur le lac Kivu.
Une pirogue motorisée qui transportait près de 150 passagers a sombré. 37 rescapés ont été identifiés à ce jour. 13 corps ont été sortis des eaux selon un premier bilan officiel, Zéphirin.
Deuil national également à Madère après un accident de bus mortel.
Un accident qui a coûté la vie à 29 touristes allemands la nuit dernière. Le deuil national qui va durer 3 jours à compter de ce jeudi vise, je cite, à exprimer la douleur et la solidarité de toute la population du pays envers les victimes et leurs familles. C'est ce que précisent les autorités. Le véhicule qui transportait une cinquantaine de personnes a fait une chute d'une dizaine de mètres dans un virage.
Le journal en français, facile.
Et l'actualité en France est ce double hommage aux sapeurs-pompiers mobilisés lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris. C'était lundi soir.
Oui, ils étaient reçus à l'Élysée à la mi-journée où ils ont reçu la Légion d'honneur de la main du chef de l'État. Avant une autre cérémonie sur le parvis de l'hôtel de ville. Par ailleurs, les contributions pour reconstruire la cathédrale se poursuivent. Environ 850 millions d'euros avaient été récoltés ce jeudi. Les initiatives continuent. Le Maroc annonce un don. Le Comité international olympique va lui faire un chèque de 500 000 euros pour que la cathédrale soit prête pour les Jeux Olympiques de 2024, ce qui correspond à l'objectif de 5 ans fixé par Emmanuel Macron.
Et un détour du côté de l'actualité des salles obscures pour fermer ce journal avec le Festival de Cannes qui dévoilait sa sélection officielle aujourd'hui.
Il y a un peu moins d'un mois maintenant de la première montée des marches. En tout, 19 longs métrages concourront pour la prestigieuse Palme d'Or, notamment ceux de Ken Loach, de Pedro Almodovar, des Frères Dardenne ou encore de Xavier Dolan. Le président du Festival Pierre Lescure et son délégué général Thierry Frémaux ont levé le voile ce matin sur cette 72e édition, décrite comme romantique et politique. Écoutez les explications de Thierry Frémaux.
La sélection comporte des films qui sont soit directement politiques, soit de manière plus indirecte, mais clairement, on peut faire du cinéma d'auteur, on peut faire un cinéma de création avec des grands sujets. Quand Marco Bellocchio visite l'histoire de la mafia sicilienne, c'est aussi un acte politique de sa part, un cinéaste de sa génération qui décide de s'attaquer au grand fléau de son pays. Quand Ken Loach fait un film sur la façon dont désormais les classes pauvres, les prolétaires finissent par s'opprimer entre elles, on est aussi dans l'observation d'un monde qui n'est pas le même que celui du jeune Ken Loach des années 60 qui révolutionnait la télé anglaise. Donc oui, un cinéaste comme Kleber Mendoza évoque les populations du nord-est brésilien regardées par les classes hautes de façon extraordinairement violente.
Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes qui débute donc le 14 mai prochain. Il s'exprimait au micro de Maria Carola Pina. Carolina Pina, j'ai écorché son nom. Il est 22h10 à Paris. Il est temps que ce journal en français facile se termine. Merci d'écouter RFI.